Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. Vous le savez, ActuVu, c'est le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui reprend toute l'actu de la semaine. Et aujourd'hui, rien que pour vous, on va parler d'un certain Sébastien Coé, des résultats des élections aux Pays-Bas et en Argentine, d'intelligence artificielle, de notre bonne vieille ligue de football professionnel et de confiance dans les médias. Des sujets pas toujours faciles à appréhender, alors notre but, c'est de vous les expliquer le plus simplement et clairement possible. Mais avant tout ça, on accueille Alexandre pour le traditionnel affluoté. Alexandre, c'est le début de la trêve à Gaza. Elle doit durer 4 jours.
C'est une première. Au bout de 49 jours de conflit, 13 femmes et enfants israéliens ont été libérés ce vendredi, conséquence d'un accord négocié mercredi par le Qatar. Il prévoit que 50 otages doivent être libérés. En échange, Israël devrait relâcher 150 soldats prisonniers. Et on vient de l'apprendre, 12 otages thaïlandais viennent aussi d'être remis en liberté. C'est un triplé, et je ne vous parle pas de foot, mais de littérature. Neige Sino remporte le prix Goncourt des lycéens pour son livre « Triste tigre ». L'autrice avait déjà remporté le prix Femina et le prix littéraire du journal Le Monde cette année.
Il part, puis finalement revient aux affaires. Alors non, ce n'est pas Bernard Laporte, mais bien Sam Altman.
C'est le PDG de l'entreprise la plus influente de l'IA, OpenAI, le père de ChatGPT. Alors qu'il se fait virer vendredi dernier par le conseil d'administration, coup de théâtre, les salariés font pression pour qu'il revienne. Entre deux, il avait été annoncé un temps comme ayant été recruté par Microsoft, mais Sam Altman préfère revenir dans l'entreprise d'IA, à condition que quasi tous les membres du conseil d'administration démissionnent. Mission accomplie, il redevient patron de l'entreprise cotée en bourse. C'est l'histoire d'un homme qui émet autant de CO2 que 1158 Français. Et bien cette histoire, c'est celle de Bernard Arnault. Selon un rapport d'Oxfam, les 1% les plus riches de la planète émettent autant de gaz à effet de serre que les 66% les plus pauvres. Un rapport à nouveau alarmant alors que la COP28 s'ouvre jeudi prochain à Dubaï.
Petit four et champagne, les maires de France se font plaisir cette semaine à leur 105e congrès.
Un événement placé sous le signe de leur sécurité alors que les violences continuent d'augmenter à leur encontre. Plus de 2300 atteintes aux élus ont été enregistrées depuis le début de l'année. Un petit nom au passage que vous devez retenir, David Lisnard a été réélu à la tête de l'Association des maires de France. Vivendi rachète officiellement Lagardère. Pour rappel, Vivendi, c'est l'entreprise familiale de notre cher et tendre Vincent Bolloré. Lagardère perd définitivement donc le contrôle de plusieurs médias nationaux, le JDD, Paris Match ou encore Europe 1. Mais ce n'est pas tout, Vivendi détient aussi Hachette désormais, rien que ça, le géant de l'édition.
Debout !
Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi ! Mais qui elle est celle-là ?
Quelle indignité.
Animateur star d'Energy, Sébastien Coé se retrouve dans la tourmente cette semaine. Clément, il est visé par une plainte pour viol.
Oui, c'est la révélation fracassante de l'OB cette semaine. La plainte a été déposée le 18 novembre à la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône. Alors, elle fait suite à de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, notamment des messages que l'animateur aurait envoyés à des filles mineures. La plainte émane de Julie, secrétaire médicale de 25 ans. La jeune femme porte plainte pour deux viols supposés, l'un alors qu'elle était mineure, un autre l'année dernière, elle avait 24 ans.
Et la victime présumée s'est exprimée publiquement au micro de BFM TV.
Oui, Julie a affirmé s'être rendue à Genève sur invitation de l'animateur pour faire écouter une maquette. Selon ses mots, je cite, « C'était presque une idole, j'étais comme une folle. Je me suis dit qu'il allait écouter ma maquette, que j'allais peut-être obtenir un stage. » L'animateur l'aurait alors invité dans sa chambre d'hôtel. Seul avec la jeune fille, Coé aurait alors baissé son pantalon avant de lui dire « C'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. » Malgré son refus, Julie aurait été conduite à une fellation forcée.
Et ce n'est pas tout.
Non, depuis elle a admis avoir tenté de mettre fin à ses jours et a été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle est toujours sous antidépresseurs et sous traitement pour dormir la nuit. Selon l'Obs, la jeune femme serait restée en contact avec l'animateur et sa plainte porterait sur une pression sexuelle récurrente exercée par SMS et une nouvelle fellation forcée dans un parking en 2022.
Mais Sébastien Coé dément ces accusations.
La suite logique, il a annoncé quelques jours avant le dépôt de cette plainte avoir lui-même porté plainte pour harcèlement, après avoir été accusé sur X d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à des mineurs. Concernant la plainte pour viol, il a déclaré avoir les preuves de son innocence et dénonce une lamentable entreprise de déstabilisation. De son côté, Energy a choisi d'écarter son présentateur vedette. Une enquête préliminaire pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol a été ouverte par le parquet de Bourg-en-Bresse.
Les automobilistes parisiens vont devoir lever le pied après les Jeux Olympiques de cet été.
20 km/h de moins, c'est ce qu'a annoncé la ville ce mercredi sur l'ensemble des 35 km du périphérique parisien. La vitesse va donc passer de 70 km/h à 50 km/h après les Jeux Olympiques pour améliorer la qualité de l'air à Paris. Une mesure de plus pour diminuer le trafic routier dans la capitale. À noter que 1500 Parisiens meurent prématurément chaque année.
Revirement de situation confirmé par l'Assemblée nationale, les salariés pourront continuer de payer leurs courses avec des tickets resto en 2024.
Oui, la possibilité de faire ses courses avec des titres restaurant avait été instaurée en 2022 sous forme de dérogation. Cette dérogation devait prendre fin le 31 décembre 2023, ce qui mettait le gouvernement dans l'embarras, dans un contexte d'inflation. Les députés ont donc voté dans l'urgence la prolongation de cette dérogation jusqu'à fin 2024. Reste encore à être confirmé par le Sénat. Attention, cela ne concerne uniquement les produits devant être préparés, comme la viande, les pâtes, le riz ou la farine.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream.
Be you, be proud of you.
L'extrême droite gagne du terrain un peu partout dans le monde politique international. Jeanne, on revient sur les élections de ces derniers jours et sur ces nouveaux visages politiques qui font beaucoup parler.
Dimanche 19 novembre, le candidat d'extrême droite, Javier Milei, a remporté le second tour de l'élection présidentielle en Argentine. Il a réuni 55,6% des voix contre 44,3% pour Sergio Massa, ministre de l'économie, sortant après le décompte de plus de 99% des bulletins de vote. Il succède au président de centre-gauche Alberto Fernandez. Celui qui se définit comme anarcho-capitaliste a fait campagne sur un programme de restriction de nombreux droits humains, et en particulier ceux des femmes. Par exemple, il a promis d'abroger la loi légalisant l'avortement et de supprimer le ministère des femmes. Il a qualifié la nuit de sa victoire d'historique et a très vite reçu le soutien de son idole, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui a écrit sur son réseau social « Je suis très fier de toi, tu vas transformer ton pays et faire de l'Argentine à nouveau un grand pays ». Jair Bolsonaro, lui, ancien président du Brésil, a dit que l'espoir brille à nouveau en Amérique du Sud. Javier Milei assurera la présidence à partir du 10 décembre.
Et plus récemment, l'extrême droite s'est illustrée en Europe, aux Pays-Bas plus exactement.
Oui, tout à fait. Hein. Il est anti-islam, anti-Union européenne, anti-écolo. Encore un joli cocktail qui lui vaut d'ailleurs le surnom du Trump néerlandais. Derrière tous ces qualificatifs, il y a Geert Wilders à la tête du Parti de la Liberté, une formation d'extrême droite qu'il a créée en 2006 aux Pays-Bas. Et mercredi 22 novembre, lors des élections législatives qui se sont déroulées, le parti est arrivé en tête et a raflé 37 sièges sur les 150 de la seconde chambre des États généraux du Royaume des Pays-Bas, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. En plus d'être un parti islamophobe, il souhaite voir les Pays-Bas sortir de l'Union européenne et il a une tendance proche du climato-scepticisme. Mais pour le moment, il est encore loin d'être assuré de gouverner, car pour ça, il faudrait qu'il forme une coalition d'au moins 76 sièges. Et les autres grands partis n'ont pas l'air d'avoir très envie de participer à une coalition avec le Parti de la Liberté. Reste à voir comment se dérouleront les prochaines discussions autour de cette coalition.
La tradition remonte au 9e siècle avant Jésus-Christ. Le Comité international olympique souhaite faire taire les armes le temps des Jeux.
La traditionnelle trêve olympique a été adoptée. Le mardi 21 novembre, l'Assemblée générale de l'ONU a invité les pays à respecter une période de paix pendant les Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024. Adoptée à 118 voix pour et 2 abstentions de la part de la Russie et de la Syrie, cette période de paix devrait durer du 26 juillet au 11 août 2024.
Une attaque au couteau dans le centre-ville de Dublin se transforme en émeute dans la soirée d'hier.
La capitale irlandaise a sombré dans le chaos jeudi soir dernier. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Dublin et ont incendié des véhicules et pillé des magasins. Plus tôt dans l'après-midi, une attaque au couteau s'est déroulée devant une école. Un homme a poignardé une femme et 3 enfants. À l'origine de ce déchaînement de violence, des rumeurs quant à l'éventuelle origine algérienne de l'assaillant.
Alexandre nous l'a dit, Sam Altman dirige de nouveau OpenAI, mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement une affaire américaine. Arthur, la France veut-elle aussi miser sur le secteur ?
Il y a quelques jours, les patrons d'Iliad, Xavier Niel, de la CMA-CGM, Rodolphe Saadé et l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, ont annoncé la création de QTI, un laboratoire de l'intelligence artificielle. Objectif derrière la création de ce nouvel institut, concurrencer les géants du milieu en la présence d'OpenAI, Google ou encore Meta et développer un algorithme made in France. L'un de ses cofondateurs, Xavier Niel, a affirmé sur France Inter que l'idée est de créer en France et en Europe quelque chose qui va permettre à nos chercheurs de mettre en place des algorithmes qui vont correspondre à nos particularités européennes, à notre civilisation et à ce que l'on est. Doté d'un fonds d'investissement de 300 millions d'euros, le laboratoire de recherche dispose déjà d'une puissance de feu conséquente, vouée à accueillir de nouveaux investissements dans le futur.
Or, 300 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais Arthur, est-ce que c'est assez pour concurrencer les grandes entreprises américaines ?
L'enjeu de la puissance financière reste toujours central dans le milieu de l'intelligence artificielle, puisque la plupart des entreprises se veulent à but non lucratif. C'est une condition au développement, puisque la concurrence est rude pour attirer les plus grands experts du domaine. C'est vrai que concurrencer les États-Unis n'est pas une mince affaire, puisque les géants de l'informatique outre-Atlantique disposent de fonds quasi illimités. Pour Libération, Patrick Pérez, directeur de QTI, explique qu'aujourd'hui, il y a une véritable course au talent et qu'on observe une explosion de la barre salariale.
Un laboratoire qui veut produire une IA 100% locale, apparemment c'est possible.
Si l'objectif est d'être made in France, pour le moment celui-ci est plutôt réussi. 6 Français, provenant tous des géants de la recherche de l'IA comme DeepMind ou encore Meta, composent ce nouveau laboratoire. Placé au-dessus des chercheurs, le conseil scientifique est quant à lui plus cosmopolite. On y retrouve quand même la présence d'un Français, Yann Lequin, l'ancien directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, avant de rejoindre QTI. Pour les 3 investisseurs, l'idée est de garder les talents français en métropole plutôt que de les laisser repartir outre-Atlantique.
Presque 7 ans après l'affaire des Panama Papers, les caisses de l'État français se remplissent de plusieurs millions d'euros.
Et oui, c'est inédit. L'évasion fiscale a rapporté des fonds à l'État français. Oui, oui, les Panama Papers ont permis à eux seuls de faire entrer près de 200 millions d'euros dans les caisses. Et ce, grâce aux redressements fiscaux de 219 contribuables, d'après les informations de la Direction Générale des Finances Publiques. Ils permettent aujourd'hui à la France d'intégrer le club très fermé des 5 pays à avoir recouvré plus de 100 millions d'euros de pénalités grâce aux Panama Papers.
Et c'est une avancée de plus pour la cause LGBT.
Cette politique passée fait honte à notre République. Ce sont les mots utilisés par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti au perchoir du Sénat lors du vote ce mercredi 22 novembre d'une proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État dans les condamnations des personnes homosexuelles entre 1945 et 1982. Une loi qui devait aussi prévoir la réparation des victimes avant que la droite ne s'oppose à cette idée lors de la consultation.
Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi tu me parles pas d'âge.
I recoup the ball.
La Ligue de football professionnel, aussi appelée LFP, n'a pas encore trouvé de diffuseur télé pour la Ligue 1, mais ça ne l'empêche pas visiblement de poursuivre ses petites affaires, puisque Pierre, elle vient de passer un accord avec CVC.
Oui, on savait, la LFP est mal en point, on ne se doutait pas en revanche qu'elle puisse tourner le dos de cette façon à son indépendance financière. 13% des parts appartiennent désormais à CVC Capital Partners, un fonds d'investissement luxembourgeois qui vient de mettre sur la table 1,5 milliard d'euros pour entrer dans le capital du football français. Déjà ultra présent dans le monde du sport puisqu'il dispose entre autres de 13% de la société commerciale du tournoi Destination. Il cherchait une ouverture dans le football, et bien c'est chose faite désormais.
Et cette annonce ne passe pas vraiment auprès des acteurs du championnat.
Non, car la redistribution de cet investissement est contestable et contestée. Le club du Havre a déposé un recours devant les tribunaux. La raison ? Alors en Ligue 2, les Normands n'étaient pas éligibles aux 33 millions d'euros captés par la majorité des clubs du championnat au moment du premier accord au printemps 2022. Pire, le HAC aurait perçu moins d'argent que les équipes de deuxième division qui, en moyenne, ont touché 3 millions d'euros. Les dirigeants se sentent donc lésés par cette opération.
Et c'est aussi la nature même du contrat qui pose problème.
Oui, si les autres clubs restent relativement discrets, cela n'a pas valeur d'approbation pour autant. Le deal avec CVC court sur une durée indéterminée. Cela signifie que le fonds d'investissement va percevoir 13% du capital de la LFP chaque année et jusqu'à la nuit des temps. Un accord de court terme, certes, mais finalement mortifère à plus large horizon.
Plus qu'à un accord financier, on a un peu l'impression d'assister à une opération sauvetage.
Oui, en clair, la LFP cherche à rééquilibrer ses comptes depuis des années. Depuis, en réalité, l'affaire Mediapro et l'épidémie de Covid-19 qui ont conduit le football français au bord de la faillite. Vincent Labrune, le président de la Ligue, a depuis sa nomination pour unique et seul objectif de renflouer les caisses. Oui, mais voilà, à quel prix ?
On connaît tous les aventures de Gaston Lagaffe. Eh bien, elles ne sont pas encore finies puisqu'un nouveau numéro de la bande dessinée est sorti ce mercredi et ça ne plaît pas à tout le monde.
C'est le nouvel épisode de ce qu'on appelle le Gaston Gate. Le célèbre personnage de Franquin revient 30 ans après sa dernière apparition avec une toute nouvelle histoire, simplement intitulée « Le retour de la gaffe ». Mais cette sortie dans les librairies crée la controverse. C'est le pic du contentieux qui oppose la famille de Franquin, décédée il y a maintenant 27 ans, à Delaf, le nouveau dessinateur québécois. La justice a donné raison à l'édition Dupuis en mai, mais la décision passe mal. Delaf, qui se dit dans un rêve d'enfant, promet néanmoins un respect de l'œuvre d'origine.
À quelques mois du début des Jeux de Paris, on connaît le nom du premier relayeur de la flamme olympique.
Stefanos Entouskos, c'est le nom de l'heureux élu qui aura la chance d'allumer pour la première fois la flamme olympique en avril. Couronné à Tokyo, le médaillé d'or grec d'aviron est le premier des 600 relayeurs qui auront l'occasion de porter le symbole des Jeux. La flamme parcourra ensuite 5000 km à travers la Grèce avant d'atteindre Marseille.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
Le 37e baromètre Lacroix-Kantar est tombé ce mercredi. Une étude, Valentine, sur la confiance des Français dans les médias et qui peut aider à comprendre les enjeux du journalisme.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intérêt ne faiblit pas quand il s'agit de l'information. Les résultats sont d'ailleurs historiquement hauts, avec 76% des Français qui disent suivre de près l'actualité. On note que les plus âgés demeurent les plus intéressés, alors que les plus jeunes sont davantage en retrait. Pour ce qui est des médias traditionnels, ils restent les pionniers en matière d'information. La télé arrive largement en tête, la presse écrite conserve sa deuxième position, et enfin, le petit dernier, j'ai nommé la radio. Le mauvais point cette année est attribué aux chaînes d'information en continu, qui sont en perte de vitesse par rapport aux éternels JT.
L'intérêt pour l'actu est bien présent, mais ce qu'on appelle la fatigue informationnelle persiste.
Oui, exactement, une fatigue qui ne semble pas prête de s'essouffler avec un taux de 51%. Les chiffres sont inchangés depuis l'année dernière. Plusieurs points permettent d'expliquer ce phénomène. Alors d'abord, on a la fatigue face à la répétition des sujets. Ensuite, on a l'anxiété et l'angoisse face à la gravité de ces derniers. Mais on a aussi le manque de confiance envers les médias. Et d'ailleurs, l'anxiété touche plus globalement les jeunes consommateurs. Le journal La Croix explique aussi que l'omniprésence des informations et la spécificité de certains thèmes peuvent expliquer un rejet de la population.
Et sans surprise, c'est Internet qui est la principale source d'information pour de nombreux Français.
C'est indéniable, l'information en ligne est partagée par toutes les générations. C'est environ 62% qui s'informent sur Internet au moins une fois par jour. Les réseaux sociaux sont particulièrement utilisés par les jeunes, alors attention. Même si les chiffres sont en hausse, les réseaux n'ont pas vraiment bonne presse. Avec un taux de confiance qui demeure quand même assez bas, environ 27%. Et c'est pareil pour les influenceurs.
Et justement, ActuVu, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. On vient d'ailleurs de lancer notre compte TikTok en plus de celui sur Instagram. Alors on compte sur vous pour nous suivre. Merci à tous les chroniqueurs pour leur participation et surtout merci à vous tous de nous écouter. Merci aussi à Charlotte qui s'est occupée de la régie aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. Bien entendu, on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles actualités. D'ici là, bonne semaine et à bientôt.